Radio de la paix, il est 12h.
Le journal de midi.
César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de cette édition de vendredi à 12h. Fin du dialogue national sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire, la France a réaffirmé son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour le financement du secteur de la santé. Clôture hier jeudi du 7e atelier régional sur le marketing en ligne initié par le Centre islamique pour le développement du commerce, la Fondation du Forum économique mondial et le gouvernement ivoirien. Ce programme a réuni une trentaine de femmes en vue de les familiariser aux stratégies de marketing en ligne. Dans l'actualité internationale, les auteurs du meurtre de Patrick Kirigeya, l'ex-chef des services secrets rwandais, pourraient être bientôt poursuivis. Un juge sud-africain a renvoyé le dossier au parquet pour l'ouverture de poursuites judiciaires. Autre temps fort de cette édition, la fête de Pâques, communément appelée Pâques Noël, diversement célébrée par les habitants de la région de San Pedro. Pour en savoir plus, nous aurons le dossier d'actualité proposé par Benson Kofi, notre correspondant dans le Bassa-Sandra. Et puis à la fin de cette édition, l'invité de la rédaction, Paul-Bénédicte Bolo, recevra Ali Ouattara, le président du conseil d'administration de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. La CICPI dit s'inquiéter du sort des victimes des différentes crises qu'ont connues la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Santé, ouvert le lundi 15 avril dernier, la première édition du dialogue national sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire a refermé ses portes hier jeudi à Abidjan. Initié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce rendez-vous national des acteurs du secteur de la santé en Côte d'Ivoire qui avait pour thème central investir dans la santé pour un avenir meilleur a réuni les experts, les acteurs de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, témoins pour Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de ce dialogue national sur le financement de la santé, docteur Ejenaka Aweli.
Les résultats auxquels ont abouti les principaux participants indiquent un coût total de projet indispensable à la couverture des besoins sanitaires à hauteur de plus de 1658 milliards de francs CFA. Le dossier d'investissement. Les résultats du dialogue national censé décrit les interventions prioritaires en faveur de la santé et les réformes favorables à ces interventions sera soumis à son excellent le président de la République via le Premier ministre avec les points de décision pour améliorer le financement de la santé.
Au nom des partenaires techniques et financiers, Dr Emre Ozaltine de la Banque mondiale a réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement ivoirien.
Nous prenons engagement de aligner nos priorités ou nos interventions sur celles définies par le gouvernement. Accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer l'efficience dans l'utilisation des ressources existantes et les efforts pour mobiliser des ressources additionnelles.
Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a salué à son tour le travail réalisé au cours de ce dialogue et a fait la promesse suivante.
Je vous félicite toutes et tous de ce gros travail qui a donc été abattu. Et pour tous les engagements pris ou préconisés, ils feront l'objet d'un examen approfondi par le gouvernement en conseil des ministres pour les adopter en vue de donner une nouvelle et très forte impulsion au secteur de la santé.
À noter que la société civile et le secteur privé ivoirien se sont également engagés à contribuer au financement du secteur de la santé en Côte d'Ivoire.
Clôture hier jeudi du 7e atelier régional sur le marketing en ligne initié par le Centre islamique pour le développement du commerce, la Fondation du Forum économique mondial et le gouvernement ivoirien à travers le secrétariat d'État en charge de la promotion des PME. Ce programme a réuni une trentaine de femmes en vue de les familiariser aux stratégies de marketing en ligne. Reportage signé Blédi Diégui.
Quatre jours durant, une trentaine de femmes entrepreneurs ont bénéficié de nouveaux rudiments en marketing en ligne
et sont désormais outillées pour conceptualiser d'elles-mêmes leur propre site internet. Madame Groukanga, auditrice ivoirienne.
On nous a appris comment utiliser l'ordinateur d'abord, comment vendre nos articles. Ça nous a donné beaucoup d'idées.
Confirmation et validation de ces nouveaux acquis avec Mouraï Lala de la Mauritanie.
Nous avons appris d'autres outils modernes qui nous permettront d'être capables de rechercher nous-mêmes les meilleures opportunités, tout en continuant à faire face à nos obligations familiales.
Impulser le e-commerce et partant l'économie régionale à travers une forte implication des femmes, c'était l'objectif de cet atelier régional. Tariq Méry du Centre islamique du développement du commerce.
L'évaluation de nos experts qui en est faite, ainsi que les divers commentaires issus de vos sessions, témoignent tout le sérieux que vous portez à cette formation. Je me réjouis des résultats, combien éloquents, auxquels vous êtes parvenus au terme de nos travaux.
Satisfaction également partagée par Aimé Zébeyou, la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, représentant son homologue de la promotion de PME.
La détermination dont vous avez toutes fait preuve traduit suffisamment votre degré d'adhésion à l'idée que le marketing en ligne est pour l'entreprise l'un des moyens les plus appropriés pour promouvoir les produits et services.
À l'issue de cette action qui vise à booster à partir du numérique l'autonomisation de la femme, Nour Azoua, présidente du réseau des femmes d'affaires de la Fondation islamique, a souhaité bon vent dans leurs activités à toutes les auditrices.
Ouvert le lundi 15 avril dernier, donc à Abidjan, le séminaire de formation des formateurs des femmes en politique prend fin aujourd'hui, vendredi 19 avril 2019, sur les tenants et les aboutissants de cette formation. Écoutons Rachel Gougoua, la présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, une fêtière de 17 réseaux et organisations ayant initié ce séminaire.
Au terme de cette formation, les femmes ivoiriennes, et femmes et filles et jeunes filles qui veulent aller en politique, même les hommes qui veulent aller en politique, auront à leur disposition un potentiel de compétences pour les habiliter pour aller continuer leur activité en politique.
Et ce séminaire, qu'est-ce qui a été principalement enseigné?
La première des choses, ce que nous avons observé chez les femmes en politique, c'est la méconnaissance de la législation en matière des élections et les différents éléments qui la composent. Or, cela est fondamental si on veut compétir et autres. Ensuite, il y a les techniques de conduite de réunion, il y a les techniques de prise de parole en public et il y a des techniques de persuasion et comment on peut faire pour convaincre les gens, l'auditoire, la cible. Enfin, on va terminer par la mobilisation des ressources. Parce que l'un des problèmes des femmes, c'est le manque de connaissances en matière de législation électorale et c'est les difficultés de mobilisation des ressources pour leur campagne.
Voilà, c'était Rachel Gougoua, la présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Elle a été jointe par Sourou Adams. Concours de recrutement des enseignants, 120 000 préinscrits, c'est le nombre des candidats potentiels enregistrés dans le cadre des concours lancés par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. Le sous-directeur des examens et concours pédagogiques à la DECO, la direction des examens et concours, Guy Monin Gabriel, précise ici que les inscriptions sont bien terminé et que la liste définitive des candidats retenus pourrait être mise en ligne dès le lundi prochain. L'écoutons.
Pour ce qui est des inscriptions, c'est déjà fini. L'inscription est terminée depuis le 7 avril dernier. Le délai des inscriptions n'a pas été prolongé. C'est dire que quand ils doivent être candidats, nous devons authentifier les diplômes, soit de BEPC pour les enseignants du préscolaire primaire, le diplôme de bac et licence pour ceux des collèges, et la maîtrise pour ceux qui doivent postuler pour être professeur de lycée. Tous ces dossiers doivent être authentifiés, qu'on sache que le diplôme, il est bon.
Alors, combien d'inscrits avez-vous reçus?
Nous dirons plutôt des pré-inscrits qui sont à plus de 120 000 candidats. Les pré-inscrits, c'est ceux qui manifestent leur intention d'être candidats. En principe, à partir de lundi, on doit pouvoir mettre en ligne la liste de tous les candidats qui sont retenus pour pouvoir postuler à ces différents concours. Maintenant, on a une période de 48 heures de réclamation pour voir ceux qui n'ont pas vu leur nom et qui pensent qu'ils devraient être candidats, mais leur nom n'était pas retenu. Nous avons 48 heures pour étudier. Et puis, s'ils sont dans leurs droits, on met leur nom en ligne, qu'ils puissent retirer les convocations en ligne également. Le concours se déroule pour les enseignants du primaire et préscolaire le 28 avril, un dimanche. Et pour ceux du secondaire, c'est-à-dire les professeurs de collège, c'est le 4 mai. Ceux de lycée, c'est le 5 mai.
Voilà, à l'instant, c'était Guy Monin. Gabriel, il est le sous-directeur des examens et concours pédagogiques. Dans le supérieur, il n'y aura pas d'arrêt de cours dans les universités de Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs Sénèque, tenue mercredi dernier à l'Université Félix Houphouët-Boigny de au Cocody. On écoute à cet effet le secrétaire général de la dite coordination, le professeur Johnson Kwasi. Zamina.
Là, je dis, c'est terminé et la décision prise est que le syndicat doit continuer à discuter avec les autorités, surtout qu'on a rendez-vous vendredi avec la primature et donc il faut continuer à aller à l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grève pour le moment. Et nous nous retrouverons le 8 mai pour faire la synthèse. Un syndicat est jugé en fonction des résultats obtenus. Et nous, nous venons toujours rendre compte à notre base et c'est cette base qui dit d'arrêter ou de continuer les cours. Et hier, quand nous lui avons rendu compte, elle a estimé qu'il faille continuer de discuter avec les autorités. Donc, le 8 mai prochain, nous ferons la synthèse, comme je l'ai dit, pour voir si oui ou non, on continue les cours ou pas.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs Sénèque. Les deuxièmes journées scientifiques de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, NASCAD, se tiendront du 25 au 27 juin 2019 sous le thème « Les enjeux de la sécurité alimentaire », annonce faite par le professeur Malankla Angladé. Il est le président du comité d'organisation de ce deuxième jeu scientifique de l'ASCAD.
Les enjeux de l'alimentation peuvent être envisagés sur deux volets. Le volet disponibilité et accessibilité, mais également le volet qualité des aliments. Alors la problématique qui sous-tend notre intervention en tant qu'ASCAD, c'est le fait que devant la nécessité de fournir des aliments en quantité suffisante pour les populations de plus en plus croissantes, certaines pratiques autorisées sont utilisées par les agriculteurs et les producteurs. L'utilisation d'antibiotiques, de vaccins, d'hormones, de produits chimiques divers. La préoccupation de l'ASCAD, c'est est-ce que ces éleveurs sont suffisamment formés pour respecter ce que l'on peut appeler les délais de carence avant de mettre ces produits animaux ou végétaux sur le marché.
Voilà, c'était le professeur Malankla Angladé. Il est le président du comité d'organisation des deuxièmes journées scientifiques de l'ASCAD. Il était au micro de Blé Didiégui. Dans l'actualité internationale, les auteurs du meurtre de Patrick Kirigaya, l'ex-chef des services secrets rwandais, pourraient être bientôt poursuivis. Un juge sud-africain a renvoyé hier jeudi le dossier au parquet pour l'ouverture de poursuites judiciaires. Kirigaya avait été retrouvé étranglé le 1er janvier 2014 dans un hôtel de luxe de Johannesburg. Jusqu'à présent, le parquet sud-africain n'a jamais engagé de poursuite. C'est une petite victoire pour la famille Kirigaya, 5 ans après le meurtre de l'ancien chef des services secrets rwandais, la justice sud-africaine a conclu que ces tueurs présumés étaient connus et a transmis le dossier au parquet. À présent, le dossier d'actualité de ce journal, la fête de Pâques, communément appelée Pâquinou, est diversement célébrée par les habitants de la région de San Pedro, pendant que certains profitent de l'occasion pour rejoindre leurs parents dans le centre du pays. Eh bien, d'autres se prépare à célébrer cette fête sur place. Pour en savoir plus, suivons ce dossier d'actualité proposé par Benson Kofi. Il est notre correspondant dans le Bassa Sandra.
Pakinou, fête très prisée par le peuple baoulé et bien d'autres peuples, est chaque année un grand moment de déplacement vers le centre du pays. Ainsi, ce peuple baoulé vivant en grand nombre dans le sud-ouest du pays n'hésite pas à mettre tout en œuvre pour effectuer le voyage. Un tour à la gare de San Pedro montre aisément la patience qui habite les voyageurs. Pour Nguessan Kwame, l'objectif donne du courage.
Depuis 3h du matin, je suis là. Bon, ça fait 4e départ qui s'en va comme ça. Bon, je suis encore là. Je ne sais pas à quel moment je vais avoir voiture pour aller à Yamoussoukro. Moi, je me déclare parce que je veux fêter Pakinou cette année.
Moment difficile présenté également par Kanga Christelle.
Bon, en tout cas, ce n'est pas facile. Même si à n'importe quel heure, nous allons entendre. Nous ne pouvons pas rater la Pâque en tout cas.
Comme pour dire que personne ne veut se faire compter les moments forts de Pakinou au village. Pour Kodan Kwadio et Jeanne, Pakinou, c'est la fête. Mais c'est également des moments de retrouvailles.
Je suis planté à Ouaté. Je vais à Boaké pour voir les parents. Essayer de faire la réunion de la famille, sinon pas de grave.
Parallèlement à ceux qui convergent vers le centre du pays, Pakinou 2019, dans la région de San Pedro, a pour capitale Nonoa. Les explications d'un tel choix avec Nguessan Séverin, premier vice-président du conseil régional de San Pedro.
Aujourd'hui, nous avons 5 grands villages baoulés qui sont désormais des baoulés de San Pedro, donc installés dans la région de San Pedro. Et donc, le président du conseil régional, le président Donatien Begré, vu que ses parents baoulés sont tentés chaque fois de repartir sur leur base d'origine pour fêter Pakinou, a décidé de leur offrir cette fête-là chaque année. Et comme l'objectif général, c'est de développer, alors nous profitons aussi de cette occasion pour apporter le développement à cette zone de Deguerpi Baoulé. Nous dégageons tout ce qui est réseau routier, on fait le repopulage lourd. À cette occasion, nous allons apprendre à connaître le grand peuple Bakoué qui a eu l'occasion de recevoir ce grand groupe Baoulé dans cette zone. Et puis ensuite, nous allons donner la parole à un fils de la zone qui va nous expliquer pourquoi le Baoulé fête Pakinou. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis?
San Pedro a également sa version de Pakinou. En bordure de mer, le Pakinou Beach est un concept qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 2 ans. Doudou Mbaye, initiateur de Pakinou Beach.
Tout le monde quitte la ville et la ville même n'est pas animée. On a dit bon, pour ceux qui ne vont pas au village, voilà un espace si pour Beach. Venez en faire Pâques. Chacun son pain baoulé. Cette année, on va reconduire la culture baoulé, les pailles traditionnelles. C'est une fête à ne même pas manquer. Il faut venir pour vivre ça.
En clair, Pakinou, comme chaque année, veut marquer son empreinte, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction Paul-Bénédicte Bolo reçoit à présent Ali Ouattara, le président du conseil d'administration de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, la CICPI. La CICPI précisément dit s'inquiéter du sort des victimes des différentes crises qu'ont connues la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Entretien.
Monsieur Ali Ouattara, vous avez profité de la 19e conférence trimestrielle de votre structure pour vous interroger sur la situation des personnes qui ont subi des atrocités pendant les crises survenues en Côte d'Ivoire et puis dans un autre pays qui est le Congo. Alors, votre inquiétude, c'est laquelle?
Vous vous rendez compte que depuis quelques temps, il y a des acquittements qui ont cours à la CPI. C'est vrai que la CPI a deux volets, le volet dissuasif et le volet répressif. Et que quand il y a un procès, c'est soit l'acquittement ou la condamnation. Mais l'inquiétude, c'est l'acquittement par cascade. Nous laisse perplexe par rapport au des victimes. Et donc, toute la problématique de savoir de Jean-Pierre Bemba à Laurent Gbagbo, d'un acquittement et l'autre, quel sort pour les victimes, puisque la CPI a été créée pour les victimes. La CPI a été créée pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité dans le monde. La CPI a été créée pour éviter la vengeance des victimes. La CPI a été créée également pour éviter la récidive des bourreaux. Et donc, tel que les choses se passent, ça nous inquiète. Même si c'est une décision de justice, il faut quand même savoir ce qu'il faut faire pour ces victimes. C'est inquiétant. Et donc, il faut que nous qui sommes là, qui travaillons pour la promotion de la CPI, mais qui travaillons également pour les victimes, il faut qu'on essaie de faire du plaidoyer pour que la CPI, malgré cette situation d'acquittement, puisse penser aux victimes en les soulageant.
Quelles sont les préoccupations véritables des victimes? Ce qu'elles vivent ou ressentent aujourd'hui après la relaxe de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé?
Beaucoup de victimes sont dans des situations de vulnérabilité. Il y en a qui ont encore des balles dans le corps, il y en a qui vivent des VIH-SIDA, il y en a qui souffrent, les femmes particulièrement, avec peur des viols, donc qu'il faut réhabiliter. Et il y en a également qui ont peur du leur soutien. Il y a des enfants qui sont orphelins et il y a des femmes qui sont veuves. Donc vraiment, c'est le désastre. Ça a été un choc véritable pour les victimes. victimes, aussi bien l'acquittement de Bemba que l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles de Goudet.
Ma question suivante, qui est responsable aujourd'hui?
C'est ça, qui est responsable? Parce que les gens ne sont pas morts comme ça, comme par coup de baguette magique, il y a des gens qui sont responsables. Donc nous, dans notre propos liminaire au niveau de cette conférence, nous avons souhaité que également des enquêtes soient menées de façon approfondie, qu'on ne fasse pas des enquêtes sans trop de rigueur, parce qu'on a déjà 7 ans de procès et qu'on ne trouve pas d'éléments de preuve valables, et qu'il y a un peu de légèreté dans ce qui s'est passé.
Oui, vous souhaitez que les enquêtes se poursuivent dans les deux camps?
Oui, bien sûr. En RCA, c'est pratiquement la même chose qu'on demande, et ici également en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'on demande. C'est-à-dire que pendant le conflit, il y a eu deux camps. Donc chaque camp doit répondre devant la justice. Comme nous disons toujours, l'impunité d'aujourd'hui est l'écume de demain. Si ça continue comme ça, bon, on ne le souhaite pas, mais les victimes peuvent vouloir se venger. Et également, si des bourreaux ne sont pas punis, ils peuvent être tentés à la récidiver, à recommencer.
Quel est votre regard face à l'ordonnance d'amnistie prise pour annuler les charges retenues contre les personnes accusées d'avoir perpétré ces crimes?
Vous savez, c'est une question de principe. Vous ne trouverez nulle part dans le monde une organisation de défense droits de l'homme sérieuse, un activiste sérieux, un défenseur de droits humains sérieux, qui va dire qu'il est d'accord pour une amnistie pour les crimes graves, les crimes de sang, parce que ça va contre le droit international humanitaire. Ce n'est pas possible. Ça vous dit que ces amnisties, c'est national, puisqu'il y a eu crimes graves, il y a eu crimes de sang, il y a eu des morts. Donc, au niveau de la CPI, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Si on peut une amnistie, notre amnistie ici, ça ne concerne pas la CPI, ça ne concerne pas la justice internationale, c'est sur le plan local. Si les autorités veulent prendre ce genre de décision, il faut quand même essayer d'approcher les victimes, les personnes concernées, qu'ils donnent leur accord ou pas. On ne décrète pas la réconciliation, on ne décrète pas le pardon, on ne décrète pas ce genre de loi-là.
La situation que vit la Côte d'Ivoire et le Congo par rapport aux personnes qui ont été acquittées, pour parler de Jean-Pierre Bemba, pour parler de Charles Bégoudé, pour parler de Laurent Gbagbo et des autres. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette juridiction internationale est encore en mesure de pouvoir jouer son rôle véritablement?
La CPI est utilisée des tribunaux sur le plan local. Il y a une complémentarité qui existe. Si la CPI n'arrive pas à jouer véritablement ce rôle-là, il faut que sur le plan local, que la complémentarité puisse se faire valoir à travers l'introduction d'un autre code pénal et d'un code procédure pénale, tout ce qui est comme compétence de la CPI, pour qu'on puisse justement avoir, comme le dit le statut de l'homme de la CPI, la primauté des procès, des enquêtes, des jugements dans nos différents pays, pour qu'on puisse renforcer justement nos lois sur le plan national, pour qu'on puisse traiter ces gens de crimes graves dans nos différents pays. La CPI, quoi qu'on dise, c'est quand même une goutte qui est un peu jeune. Hein. Bon, donc, ça fait à peine 20 ans qu'elle existe, et donc c'est tout à fait normal qu'il ait quand même des petites difficultés.
Je vous remercie, M. Ali Ouattara.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Le rappel de l'essentiel. Clôture hier jeudi du 7e atelier régional sur le marketing en ligne initié par le Centre islamique pour le développement du commerce, la Fondation du Forum économique mondial et le gouvernement ivoirien. Ce programme a réuni une trentaine de femmes en vue de les familiariser aux stratégies du marketing en ligne. Et puis dans l'actualité internationale, les auteurs du meurtre de Patrick Kerégueia, l'ex-chef des services secrets rwandais, pourraient être bientôt poursuivis. Un juge sud-africain a renvoyé le dossier au parquet pour l'ouverture de poursuites judiciaires. Un dossier d'actualité dans ce journal, les fêtes de Pâques, communément appelées Paquino, sont diversement célébrées par les habitants de la région de San Pedro. Pour en savoir plus, vous avez suivi, il y a un court instant, le dossier d'actualité proposé par Benson Kofi, notre correspondant dans le Bas-Centre.